Bonjour et bienvenue dans cette émission dédiée aux pères de l'Église, à l'écoute des pères. Aujourd'hui et dans les prochaines semaines, nous allons nous arrêter sur cette figure de Denis l'Aréopagite, dont l'importance est fondamentale pour la spiritualité mystique chrétienne, tant en Orient qu'en Occident.
À l'écoute des pères, l'émission de dialogue RCF sur les pères de l'Église avec Jean Charmois, orthodoxe. Interroge ton père et il t'instruira, tes anciens et ils te répondront. Livre du Deutéronome, chapitre 32, verset 7.
Bonjour Jean.
Bonjour Amaury.
Alors ce Denis l'Aréopagite, comment est-ce qu'on peut en parler pour commencer? Et puis on le découvrira en trois émissions aujourd'hui, puis les deux prochaines semaines. Qui est-il?
Alors, l'Aréopage était le lieu d'Athènes où on venait faire des conférences. Et l'apôtre Paul est venu à Athènes pour parler aux Athéniens d'un dieu inconnu. Mmh. Et personne ne l'a suivi.
Adorez le dieu que vous ne connaissez pas.
Voilà. Et donc, tout le monde l'a quitté quand on a entendu parler qu'il parlait d'un dieu ressuscité des morts, sauf un fidèle, deux en fait, Denis l'Aréopagite, qui est un disciple de saint Paul. Mais vers la fin du 5e siècle apparaissent des traités chrétiens de théologie mystique dont l'auteur se réclame être Denis l'Aréopagite, disciple de Paul. Bien entendu, l'auteur, qui est sans doute un moine syrien, écrit sous un pseudonyme. Personnellement, moi, je vais refuser de l'appeler pseudo-Denis, parce que les érudits l'appellent pseudo-Denis, parce que je trouve ça connoté négativement. Mais en fait, le Denis qui a écrit les écrits, évidemment, n'est pas le disciple de saint Paul. Mmh. Alors, il nous reste un certain nombre d'écrits remplis d'une théologie très profonde et, par rapport à l'époque, sans polémique. C'est ce qui est très rare, parce que il y a des disputes théologiques permanentes, et quand on regarde les écrits de Denis, eh bien, il n'y a pas de polémique pour ou contre le concile d'Éphèse ou de Chalcédoine ou je sais quoi. Bon. La théologie de Denis, en fait, elle s'appuie sur une philosophie néoplatonicienne, mais elle renverse cette philosophie pour en faire une lecture contemplative du mystère de Dieu et de son amour pour l'homme. Alors, les écrits de Denis sont deux livres sur la hiérarchie céleste et la hiérarchie ecclésiastique, dont nous allons parler, un livre sur les noms divins et un livre sur la théologie mystique, dont nous parlerons dans d'autres émissions, et enfin 10 lettres de moindre importance. Alors, on va commencer par les hiérarchies, et attention, attention, attachée aux ceintures, ça décoiffe, c'est quand même un langage extrêmement, extrêmement fort.
Donc, la hiérarchie céleste.
C'est la hiérarchie céleste.
Un des textes les plus connus de Denis.
Voilà, alors, c'est Denis va contempler la procession de la lumière qui vient de Dieu vers l'homme et qui unifie l'homme et le divinise, et cette lumière qui est à la fois multiple à travers ses rayons, qui sont décrits comme autant d'anges célestes, et c'est une lumière qui est unifiante, parce qu'elle chaque rayon porte en lui l'unité. Et la procession de la lumière vers l'homme a pour pendant la conversion de la lumière par l'homme vers l'unité divine. Les termes de procession et de conversion sont des termes qui viennent de Platon et des néoplatoniciens. Voilà les deux premiers paragraphes de la hiérarchie céleste. « Toute grâce excellente et tout don parfait viennent d'en haut et descendent du Père des Lumières. Il y a plus toute émanation de splendeur que la céleste bienfaisance laisse déborder sur l'homme, réagit en lui comme un principe de simplification spirituelle et de céleste union, et le ramène vers l'unité souveraine et la simplicité divinisante du Père. Car toutes choses viennent de Dieu et retournent à Dieu, comme disent les saintes Écritures. C'est pourquoi, invoquons Jésus, la lumière du Père, la vraie lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde, ayant contemplé ces splendeurs primitives, ineffables, par lesquelles le Père, abîme de divinité, nous manifeste sous des types matériels les bienheureux ordres des anges, opérons une conversion vers le principe infiniment simple d'où ces splendeurs dérivent, car elles se répandent en rayons multiples, tout en gardant essentiellement une identité immuable et une permanente unité. Alors, le Denis situe cette procession de la lumière et cette conversion dans l'autre sens, dans notre relation au Christ Jésus. Il dit « Jésus, intelligence parfaitement divine et suressentielle, principe et substance même de toute hiérarchie, de toute opération divine, illumine de façon plus claire et plus transcendante les esprits bienheureux qui sont au-dessus de nous. Et nous, grâce à cet amoureux désir du beau qui nous attire à lui et nous fait tendre vers lui, il réduit nos multiples altérités, il nous parfait en unifiant et en déifiant notre vie, nos habitudes, nos dispositions. Nous nous approchons ainsi davantage des esprits qui sont au-dessus de nous, en élevant notre regard vers la constance même de Jésus. Alors, enrichis de la science profonde des contemplations mystiques, nous pouvons être consacrés et consacrés à notre tour, recevoir la lumière et la communiquer, devenir parfaits et mener les autres à la perfection. »
C'est intéressant parce que c'est une hiérarchie qui élève, en fait.
C'est une hiérarchie qui élève. Dans notre monde, souvent, la hiérarchie, c'est l'ennemi à battre. Hein. Mmh. C'est le pouvoir supérieur qui écrase. Et pour Denis, la vraie hiérarchie n'est pas un principe de domination, c'est un principe de libération qui élève tous et tout vers le haut.
Alors, dans le cadre de cette hiérarchie céleste, il évoque les ordres angéliques.
Oui, alors... Il utilise de manière symbolique, sans trop insister sur le sujet, il dit il y a 9 ordres d'angéliques qui sont organisés en 3x3. Une première triade, les séraphins, chérubins et les trônes. Une deuxième triade, les dominations, les vertus et les puissances. Une troisième triade, les principautés, les archanges et les anges. Mais il... il va pas insister là-dessus, il va pas faire d'ésotérisme sur ces 9 ordres des anges. Dans l'esprit de Denis, en fait, chaque ange correspond à un rayon divin et correspond à une théophanie. Les séraphins, par exemple, veut dire ceux qui brûlent, ceux qui chauffent, mais parce que c'est Dieu qui brûle et qui chauffe. Les séraphins sont le feu de Dieu qui consume toute impureté. Les chérubins, c'est la plénitude de connaissance. Et c'est le signe de la profondeur de Dieu, au-delà de toute contemplation. Et Denis va ainsi systématiser l'angélologie, enfin le discours sur les anges du christianisme, en désignant à la fois le monde terrestre, le monde céleste et le monde terrestre par un terme nouveau. C'est lui qui va employer le terme de hiérarchie. C'est-à-dire un principe qui est à la fois, hiérarchie ça veut dire principe sacré, mais ça veut dire aussi sacralisant.
Et dont le but est l'union à Dieu.
Et le but est l'union de Dieu. À Dieu. Et il écrit « Le but de la hiérarchie est, dans la mesure du possible, une assimilation, une union à Dieu. C'est Dieu qu'elle prend comme maître de toute science et de toute activité. Sans quitter du regard sa très divine beauté, elle fait de ses adeptes des images accomplies de Dieu, des miroirs parfaitement transparents et sans tache, aptes à recueillir le rayon primordialement lumineux de la divinité. »
Et du coup, il fait une hiérarchie, un parallèle entre la hiérarchie terrestre, céleste et la hiérarchie terrestre.
Et la hiérarchie terrestre, qu'il appelle ecclésiastique, c'est 2x3. Alors la première triade, c'est les évêques, les prêtres et les diacres. La deuxième triade, ce sont les moines, les baptisés et les catéchumènes. Ce qui veut dire que dans la hiérarchie, il y a tous ceux qui sont proches de l'Église mais qui ne sont pas dans l'Église. C'est assez intéressant. Et ce retour à Dieu se réalise par l'Eucharistie, dans la liturgie. Il écrit « Le principe initiateur qui institue les rites sacrés nous a livré cette tradition hiérarchique pour que nous soyons élevés à la contemplation immatérielle par des images matérielles, pour considérer les beautés apparentes comme des copies de la beauté invisible, et que par la réception de la très sainte Eucharistie nous soit donnée l'union avec Jésus. »
Et donc là, on comprend aussi le rôle de la liturgie, qui est ce lien entre le monde terrestre et cette hiérarchie céleste.
Les deux hiérarchies s'interpénètrent dans la liturgie. Et donc le mystère, la liturgie est le lieu du mystère insondable du Dieu Trinité qui manifeste sa gloire à travers ses rayons. Le Christ est au centre de l'activité hiérarchique et par là de tout l'équilibre cosmique. Donc c'est une vision extrêmement de louange chez Denis. Mmh. C'est la louange qui s'exprime dans des termes néoplatoniciens, mais qui en fait c'est la glorification de Dieu. Et il écrit « Par la liturgie se révèle à nos regards contemplatifs ce mystère supracéleste, puissance de toutes les sanctifications que Dieu opère en nous. C'est sur Jésus lui-même, comme sur l'autel parfaitement divin de nos sacrifices, que s'accomplit la consécration des divines intelligences, puisque c'est là que, selon l'Écriture, nous sommes admis à la consécration et mystiquement offerts en holocauste. Considérons donc cet autel des très divins sacrifices où est sacrifiée et consacrée la sainte victime. C'est Jésus qui s'offre lui-même à nous et qui nous dispense la plénitude de sa propre consécration, excellent intendant, qui offre à Dieu, généreusement comme à des fils de Dieu, les fruits de son sacrifice. Donc les deux hiérarchies sont en continuité. Elles possèdent la même empreinte divine. Elles ne cessent de communiquer entre elles. Et l'idéal de la hiérarchie terrestre, c'est de réaliser une image aussi parfaite que possible de la hiérarchie céleste, c'est-à-dire de la lumière qui descend de Dieu pour y retourner.
Mmh. Et avec cet enjeu aussi de l'unité justement entre le terrestre et le céleste.
Oui, le but final des sacrements, c'est le retour à l'unité. Denis écrit « La bienheureuse divinité qui transcende tout être se communique à ceux qui reçoivent sa participation, mais ne sort jamais de sa stabilité essentielle. Elle illumine quiconque se conforme à Dieu, mais elle demeure toujours en elle-même, dans sa propre identité. Il en est de même pour le saint sacrement de la communion. Tout en conservant son principe unique, simple, indivisé, il se multiplie par amour des hommes dans une sainte variété de symboles, mais unifiant la variété de ces symboles, il retourne à sa propre unité et il confère l'unité à tous ceux qui viennent saintement à lui.
Merci Jean de nous avoir fait découvrir ce sujet de la hiérarchie céleste et terrestre chez Denis. On poursuit la semaine prochaine, notamment sur la question des noms de Dieu et de la vraie théologie.